L'école républicaine a accompagné les élèves lors de nombreuses périodes de violence et de guerre. Les attentats de la fin du XIXe siècle, les deux guerres mondiales, la guerre d'Algérie. Depuis les années 80, si les conflits n'ont plus lieu sur le territoire national, la France est la cible d'attentats qui sont des répercussions de ces conflits internationaux. Depuis les années 2010, régulièrement, les professeurs doivent retourner en classe en ne sachant pas vraiment quoi dire ou comment parler de cette violence avec les élèves. Entre deuil et peur, le retour en classe est souvent source d'appréhension et de questionnement. Que disent les élèves de ces moments? Quelles sont leurs attentes et leurs craintes? Que se passe-t-il en classe dans ces moments qui fragilisent le pacte pédagogique et qui bouleversent les relations et les identités de chacun? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Utschranger.
Les heures de cours qui suivent immédiatement les attentats ont été marquées par deux écarts à leur déroulement habituel. L'intrusion de l'actualité, en particulier une actualité liée à la guerre, et la manifestation d'émotions très fortes. En revenant en classe après une actualité violente, les élèves ont souvent des attentes en termes de compréhension des événements. Benoît Falaise, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, rappelle que les élèves sont curieux de participer au débat sur le monde et ses crises. Ils et elles sont désireux de comprendre et attendent des adultes, je cite, « une mise en ordre du chaos ».
The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain or stacked chest to back on the plains, it remains.
Or, commenter l'actualité et analyser le temps présent est une difficulté en soi pour les professeurs, car les savoirs ne sont pas encore constitués. L'invention et l'improvisation sont alors de mise. Il faut comprendre et faire comprendre l'événement au moment de son avènement, selon les mots de l'historien Emmanuel Saint-Fucien.
Au lendemain des attentats de janvier, au collège Henri Matisse de Paris, l'enseignante documentaliste rend accessible des textes sur la guerre. Je la cite. J'ai sorti tout ce que j'avais au CDI sur la Syrie, le terrorisme, Daesh, la liberté, les guerres. Et j'ai fait plusieurs tables de présentation. Les ouvrages, articles ont été beaucoup lus et empruntés par les élèves et par les enseignants. Fin de citation. D'autant plus, ajouterais-je, volontiers, qu'aucun manuel n'abordant les événements, évidemment, les enseignants durent dès lors créer leurs propres ressources. En janvier, déjà, et en novembre, c'est bien le hors-programme qui s'impose dans les salles de classe.
Saint-Fucien, par ailleurs, ajoute dans son livre « L'école sous le feu, janvier et novembre 2015 » que les élèves se souviennent bien davantage de ces cours hors programme que des minutes de silence. Ces faits d'actualité sont d'autant plus difficiles à aborder qu'ils sont saisis par les discours institutionnels, politiques et médiatiques, en parallèle et en amont de toute intervention des professeurs dans leur classe. Les élèves viennent alors avec des opinions, des faits et des questions qui relèvent de l'immédiat et demandent des explications et des réponses alors qu'habituellement, les professeurs se gardent de commenter l'actualité dans un souci de neutralité. C'est donc un véritable réagencement de la relation pédagogique où le monde extérieur et le présent font irruption dans le cours et demandent à être mis en mots. En outre, faire une minute de silence, participer au deuil collectif, célébrer et défendre les valeurs de la République ne relève plus de la transmission des savoirs, mais de la mission d'éducation à la citoyenneté. Dans son enquête, Emmanuel Saint-Fucien relève la place de l'émotion, qui est une autre exception au pacte pédagogique. Écoutons-le à nouveau.
En effet, la tradition pédagogique apprend aux enseignants à se méfier des émotions et à les écarter généralement de leur enseignement. Que l'on imagine alors les effets d'une monstration des larmes, par exemple, versé publiquement devant les élèves, mais aussi du choc et des peurs exprimées, visibles, palpables, multiples, qui dès lors vont subvertir les relations pédagogiques. 55 élèves sur 156 classent, si vous voulez, le souvenir des larmes de leur enseignant ou de leur enseignante pendant les minutes de silence comme le souvenir le plus marquant de l'événement vécu dans leur établissement.
Ainsi, le choc est multiple pour les élèves. Choc de la violence des attentats, choc du deuil, choc de l'irruption d'émotions très fortes chez les professeurs et choc de ne pas les reconnaître ni les comprendre complètement. Si les émotions des élèves sont plus courantes dans la pratique pédagogique, c'est l'indifférence, voire la colère des élèves qui a choqué les professeurs en janvier 2015. Les perturbations des minutes de silence en janvier 2015 ont été très commentées et analysées, souvent en s'éloignant des enjeux réels de terrain, et ont été l'occasion d'accuser l'école d'avoir failli à sa mission, d'être le lieu de la radicalisation religieuse, par excès de bienveillance et par manque d'autorité. Quand les recherches interrogent le terrain, les élèves et leurs proches, quelles autres analyses révèlent-elles ? Au sein des familles, tout d'abord, la tuerie de Charlie Hebdo est plus ou moins commentée et expliquée, comme le rappelle Sébastien Ledoux, sociologue au micro de Être et Savoir sur France Culture.
Il y a une socialisation des élèves à cet événement Charlie Hebdo qui passe par des discussions avec des parents, le soir même de l'attentat, de la part de parents provenant de classes moyennes et favorisées, qui disent à l'enfant, c'est important ce qui s'est passé, on va regarder la télévision ensemble. Et ça, c'est une forme de socialisation. C'est-à-dire que moi, les élèves que j'ai interrogés dans mon enquête me disent, j'apprends sur mon portable Charlie Hebdo, je passe à une autre nouvelle. Donc en fait, il n'y a pas d'élèves ce jour-là qui se disent « Ah oui, c'est grave ce qui se passe ». Donc il y a une socialisation de l'événement qui passe par des parents, qui justement sont plutôt de classe moyenne et classe favorisée, mais pas des classes populaires. Donc le lendemain matin, quand vous avez cette demande institutionnelle qui se fait, bien, il y a des enfants qui effectivement sont prêts à y répondre de façon tout à fait, on va dire, correcte, conforme, etc., etc., aux attentes de l'institution scolaire. Et puis il y a d'autres élèves qui ne sont pas forcément justement dans cette conformité-là, si je puis dire.
Si on s'intéresse aux réactions des élèves, si on laisse de côté les réactions minoritaires et effectivement radicales de quelques jeunes, elles peuvent se lire sous l'angle des sentiments et de l'émotion. L'enquête d'Alice Simon, sociologue, auprès d'élèves qui se disent musulmans, révèle peur et sentiment d'injustice. Elle décrit d'abord un sentiment de stigmatisation et une impression de se faire personnellement insulter par les caricatures. De son côté, Jean-François Mignot, sociologue et démographe au CNRS, relève lui aussi chez les élèves un fort sentiment d'agression envers, je cite, « l'estime de soi des croyants ». Alice Simon remarque aussi l'injustice ressentie lorsqu'on les oblige à être Charlie de manière arbitraire ou lorsque la minute de silence est vécue comme une opération de discipline auquel ils doivent se plier et qui les fait taire.
La perception qu'ont eu les enfants de cet attentat dépend évidemment de la socialisation familiale, de ce qu'ils ont pu entendre, etc., mais dépend aussi assez fortement de leur rapport à l'institution scolaire. Quand ils parlent des événements de Charlie Hebdo, ils parlent beaucoup de la façon dont ils ont été gérés à l'école. Et le sentiment d'injustice, le sentiment, comme le disent certains enfants, que la liberté d'expression, c'est ok, mais pas à l'école, par exemple, ça concerne que le journal. Donc ce sentiment-là, a pu jouer en fait sur les opinions des enfants. Pour beaucoup, c'est une forme de rejet de l'institution scolaire en général parce que l'institution scolaire ne veut pas considérer le fait qu'eux se considèrent comme musulmans.
Une autre crainte est celle d'être indirectement associé aux terroristes. Les discours un peu maladroits qui refusent les amalgames peuvent être vécus violemment car c'est déjà reconnaître l'amalgame fait entre terrorisme et islam, entre la pratique religieuse et la radicalisation violente. En novembre 2015, les élèves témoignent aussi de la peur d'être les prochaines victimes ou que leurs proches soient victimes. Le climat tendu et l'évocation d'une forme de méfiance au sein même des classes, ajoutée à la violence des attentats, a fait naître aussi la peur de la guerre civile chez les élèves. Les médias et les discours politiques n'hésitent pas à évoquer cette potentielle guerre civile, d'autant plus quand Daesh, en novembre 2015, appelle au meurtre des enseignants et des enseignantes et des assistants et des assistantes sociales en France. Après le meurtre de Samuel Paty et de Dominique Bernard, les émotions sont à nouveau au cœur de la relation pédagogique. Les professeurs sont très touchés et s'identifient évidemment aux victimes. Comment dès lors aborder le sujet avec les élèves ? La question se pose de nouveau et amène les enseignants à demander des heures de préparation au retour en classe, privilégiant la réponse pédagogique et l'accompagnement aux seules minutes de silence imposées par l'institution. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Bien que l'émotion ait été très forte pour les professeurs, la réponse pédagogique, le maintien du lien avec les élèves est resté un souci et une priorité. Si la situation a quelquefois été mal vécue par les élèves, leur gêne reposait en réalité plus sur la manière de leur livrer la réponse institutionnelle aux événements, sans leur apporter les explications dont ils avaient besoin pour la comprendre. Sans le dialogue et le débat, le pacte pédagogique a pu être mis à mal. Dans un article paru en 2024, suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre et à l'offensive de l'armée israélienne sur Gaza, Benoît Falaise défend une pédagogie de l'écoute et du dialogue, même sur des sujets qui crispent les identités et les valeurs de chacun et chacune. Il parle de postures professionnelles singulières qui demandent, je cite, « d'entendre, attendre, écouter et accepter ce que disent les points de vue », y compris ceux trop tranchés, ou trop directement issus du débat public. Il ajoute « C'est incontestablement une façon de faire confiance aux élèves que de les considérer comme des interlocuteurs valables. » En effet, en janvier 2015, les attentats accélèrent un long projet de refonte de l'enseignement moral et civique, dont un des piliers méthodologiques est le débat argumenté. La notion de débat suppose des positions opposées et la reconnaissance de la complexité des conflits d'arguments. Elle rappelle qu'une démocratie repose sur l'existence de conflits qui ne sont pas niés. La démocratie, écrit Paul Ricoeur, est un régime qui ne cherche pas à occulter la division sociale, ni les conflits qui les traversent, mais qui s'emploie à leur trouver un règlement pacifique. Ces paroles résonnent en écho avec celles de l'article d'Elena Pavel, professeure d'histoire géo et coordinatrice de l'éducation aux médias et à l'information, qui rappelle que les élèves peuvent ne pas adhérer au message ni au procédé des dessinateurs, en parlant de Charlie Hebdo, mais que ce désaccord, au besoin, doit se régler au tribunal et dans un cadre légal. L'enjeu est alors en classe de jouer et d'apprendre cette confrontation des arguments que l'on peut retrouver au tribunal ou dans les controverses scientifiques. Il s'agit d'en appeler à la rationalité et les connaissances sans faire taire les émotions et les valeurs qui doivent être identifiées et énoncées pour situer les interlocuteurs. En témoignage, écoutons un entretien avec Elsa Boudeville, professeure des écoles, membre du collectif Territoires vivants de la République.
On doit parler de tout ce qui nous désunit ou tout ce qui pourrait nous unir. On est obligé de le faire. C'est plutôt ça, moi. C'est pas tabou. Mmh. On est là pour faire ensemble. Et ils seront là plus tard pour faire ensemble. Donc si on ne parle pas de ça, on n'apprend pas l'essentiel. Voilà. Non, c'est qu'on est obligé de construire une société. Et qu'on sait bien les problèmes qui sont déjà là et qui vont les attendre et qu'on traverse. Donc il faut qu'on y aille, quoi. En tout cas, il faut qu'on se pose les questions ensemble.
En conclusion, malgré tout et face à la violence guerrière, les attaques meurtrières et les accusations, l'école a tenu bon et a su maintenir le lien entre élèves et professeurs parce que le dialogue, l'accueil et l'éducation doivent rester au cœur de ses pratiques. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.